Bienvenue dans notre analyse. Aujourd'hui, on s'attaque à une histoire incroyable. C'est presque un thriller intellectuel.
C'est vraiment ça.
Imaginez, vous consacrez votre vie à construire un édifice, un truc monumental, la fondation logique de toutes les mathématiques. Vous êtes sur le point de publier le tome, le dernier volume, l'aboutissement de tout. Et là, vous recevez une lettre, juste quelques lignes d'un jeune logicien quasi inconnu qui, avec un simple paradoxe, fait s'effondrer tout votre système.
C'est terrible.
C'est ce qui est arrivé au grand penseur Gottlob Frege en 1902, et l'auteur de la lettre, c'était Bertrand Russell.
Exactement.
Notre mission aujourd'hui, c'est de comprendre ce paradoxe, de voir comment Russell a lui-même tenté de colmater la brèche et d'explorer les secousses que ça a provoquées.
Et bien au-delà des mathématiques, en fait.
Absolument.
C'est une histoire fascinante. Vraiment. Parce qu'elle touche à quelque chose de très profond, les limites du langage, de la logique. Et pour bien saisir l'idée de Russell, qui est quand même assez abstraite...
Oui, il faut s'accrocher un peu.
Il faut. Mais le mieux, c'est de commencer par les versions, disons, grand public du même problème. Ce sont des casse-têtes que Russell utilisait lui-même.
Pour illustrer sa pensée ?
Voilà. Le point commun, le cœur du réacteur, si on veut, c'est l'autoréférence. C'est quand une affirmation ou une règle parle d'elle-même. Et que, eh bien, ça crée un court-circuit logique.
D'accord. L'autoréférence. L'exemple le plus connu, c'est le paradoxe du menteur, je suppose.
C'est le grand classique.
La fameuse phrase « je suis en train de mentir », si c'est vrai, alors je mens, donc la phrase est fausse. Si c'est faux, je ne mens pas, donc la phrase est vraie. On est bloqué.
Complètement.
La source propose une relation encore plus pure, c'est juste « la phrase écrite ici, entre crochets, n'est pas vraie ».
Et c'est la même boucle.
La même boucle infernale, oui. Elle est vraie si, et seulement si, elle est fausse.
C'est l'essence même de la contradiction. Ça montre qu'on peut formuler une phrase qui respecte toute la grammaire, mais qui est logiquement impossible.
C'est fou.
Et il y a un autre exemple, peut-être plus imagé, qui aide vraiment à visualiser la structure du problème.
Le paradoxe du barbier.
C'est ça, le barbier.
Ah oui, celui-là, il est excellent. Alors, dans un village, il y a un barbier. Et sa règle est très stricte. Il rase tous les hommes du village qui ne se rasent pas eux-mêmes. Et uniquement cela. La question qui tue, c'est « qui rase le barbier ?»
Et là, les ennuis commencent.
Totalement. Si on dit qu'il se rase lui-même, il viole sa règle. Parce qu'il ne doit raser que ceux qui ne se rasent pas eux-mêmes. Donc, il ne peut pas se raser.
Mais s'il ne se rase pas lui-même...
Ben là, il entre pile dans la catégorie des gens qu'il est censé raser. Donc, il doit se raser.
C'est sans issue.
Conclusion. Il se rase si et seulement si il ne se rase pas. C'est la même contradiction. Mais honnêtement, en quoi est-ce que cette petite histoire de village a pu faire trembler les fondations des maths? Le lien n'est pas si évident.
C'est la question clé. Le lien, c'est que cette histoire de barbier, elle a exactement la même structure logique que ce que Russell a trouvé au cœur du système de Frege.
Ah!
Sauf qu'au lieu de parler de barbier... On parle de concepts beaucoup plus abstraits, des ensembles. Frege voulait fonder les maths sur la logique des ensembles, avec un principe de base qui, franchement, semble évident.
Lequel ?
Le principe de compréhension non restreinte.
D'accord, compréhension non restreinte, ça sonne un peu intimidant. Ça veut dire quoi, simplement ?
L'idée est très intuitive, en fait. Pour n'importe quelle propriété qu'on peut définir avec des mots, être rouge, être un chien, être un nombre premier, il existe un sac conceptuel, un ensemble, qui contient tous les objets qui ont cette propriété. Et uniquement cela.
Ok, ça me paraît logique. C'est la base de la classification. Si je pense à être une planète de notre système solaire, je peux créer l'ensemble qui contient Mercure, Vénus, la Terre, etc.
Voilà.
Si je pense à être un chien... Je crée l'ensemble de tous les chiens. Jusqu'ici, tout va bien. Où est le piège ?
Le piège, on ne le voit pas tout de suite. Il apparaît quand on réalise que ce principe, qui est très permissif, permet de créer deux types d'ensembles un peu étranges.
D'accord.
D'un côté, il y a les ensembles qui ne s'appartiennent pas eux-mêmes. C'est le cas de presque tous les ensembles qu'on imagine.
Comme l'ensemble des chiens.
Exactement. L'ensemble de tous les chiens n'est pas lui-même un chien. Il n'aboie pas, il ne remue pas la queue. Donc, il ne s'appartient pas. C'est simple.
Ça, c'est la catégorie normale, on va dire. Et l'autre ?
L'autre catégorie est plus philosophique. Ce sont les ensembles qui s'appartiennent à eux-mêmes.
Ah oui.
Prenez l'idée de l'ensemble de tous les concepts. Ben, c'est un concept, donc il s'appartient. Ou comme le donne la source, l'ensemble de tout ce qui existe. Cet ensemble-là, il existe.
Donc il fait partie de lui-même.
C'est ça. C'est un peu vertigineux, mais logiquement, dans le système de Frege, ça se tient.
Donc, si je résume, on a des ensembles normaux qui ne s'appartiennent pas, comme l'ensemble des chiens, et des ensembles bizarres qui s'appartiennent, comme l'ensemble de tout.
C'est une bonne façon de voir les choses.
J'imagine que le problème ne vient pas de l'ensemble des chiens.
Vous mettez le doigt dessus. Le problème vient de cette capacité à créer un ensemble à partir de n'importe quelle propriété. L'idée de génie de Russell, ça a été de se dire « Ok, utilisons la propriété la plus tordue, la plus autoréférentielle qui soit. »
Et cette propriété, c'est ?
Ne pas s'appartenir à soi-même.
Attendez, donc il a appliqué le principe de Frege pour créer un nouvel ensemble à partir de ça.
Exactement. Il a dit « Construisons l'ensemble de tous les ensembles qui ne s'appartiennent pas eux-mêmes. »
Ok.
Appelons cet ensemble WE, pour faire simple. C'est donc l'ensemble qui contient l'ensemble des chiens, l'ensemble des planètes, l'ensemble des chaises, tous nos ensembles normaux.
D'accord.
Et là, il pose la question fatidique, la même que pour le barbier.
Ah, je crois que je vois où ça mène, c'est diabolique. La question est-ce que cet ensemble W s'appartient à lui-même ?
C'est la question qui fait tout sauter. Analysons les deux options. Première hypothèse, W s'appartient à lui-même.
D'accord.
S'il s'appartient, il doit respecter la règle de son propre club, c'est-à-dire avoir la propriété, ne pas s'appartenir à soi-même.
Ah.
Du coup, on arrive à la conclusion que s'il s'appartient, alors il ne s'appartient pas. Contradiction.
C'est déjà une impasse. Et la deuxième hypothèse, si W ne s'appartient pas à lui-même.
Eh ben là, il possède la caractéristique requise pour entrer dans le club. Il a la propriété... ne pas s'appartenir à soi-même.
Donc, il devrait appartenir à l'ensemble W.
Exactement. Deuxième contradiction. On est totalement coincé.
C'est fou.
La conclusion est brutale. Cet ensemble W s'appartient si et seulement s'il ne s'appartient pas. La formule W appartient à W entraîne W n'appartient pas à W est une absurdité logique. Mais elle découle directement des règles de Frege. Russell a trouvé la faille.
Waouh. Recevoir cette lettre... ça a dû être d'une violence intellectuelle inouïe. On imagine Frege avec ses années de travail, le livre sur le point d'être imprimé.
Oui.
Et il lit ces quelques lignes qui font tous s'effondrer. C'est presque tragique.
C'est l'une des histoires les plus célèbres de l'histoire des sciences. Et ce qui est le plus remarquable, c'est la réaction de Frege.
Qu'est-ce qu'il a fait ?
Au lieu de cacher le problème ou de le minimiser, il l'a publié lui-même, en annexe de son propre livre qui était du coup invalidé.
C'est incroyable.
Il a écrit une phrase terrible d'honnêteté. Il n'y a rien de pire pour un scientifique que de voir les fondations de son œuvre s'écrouler au moment où il la termine.
C'est un monument d'honnêteté intellectuelle. Absolument. Mais Russell n'a pas fait que détruire. Il a aussi dû proposer une solution pour éviter que la logique ne s'effondre.
Oui, il fallait reconstruire. Il a proposé ce qu'on appelle la théorie des types.
La théorie des types ?
L'idée fondamentale est que le problème vient du fait qu'on mélange tout. On met dans le même sac des objets... des collections d'objets, des collections de collections. Pour Russell, c'est cette absence de hiérarchie qui crée le chaos.
D'accord, il faut interdire certaines phrases, c'est ça?
Il faut interdire les phrases qui mélangent les niveaux. Il faut une sorte de tri par catégorie, oui.
Et comment ça marche, ce tri?
Il faut distinguer les types logiques. Par exemple, les éléments d'un ensemble, disons les chiens, sont de type 0. L'ensemble qui les contient, l'ensemble des chiens, est de type 1. Un ensemble d'ensembles serait de type 2, etc.
Une hiérarchie.
Voilà. Et la règle cruciale, c'est qu'un ensemble d'un certain type ne peut contenir que des éléments de type inférieur.
D'accord. Et en quoi ça résout le paradoxe ?
Ça lui dissout complètement. Reprenons notre ensemble paradoxal W, l'ensemble de tous les ensembles qui ne s'appartiennent pas.
Oui.
Selon cette nouvelle règle, W est un ensemble de type, disons, N. Les ensembles qu'il contient doivent donc être de type N-1.
Logique.
Dans ce système, la question... est-ce que W s'appartient à lui-même n'a plus aucun sens. C'est une faute de grammaire logique. Un ensemble de type N ne peut pas se contenir lui-même, car il n'est pas de type N-1.
On ne peut même plus formuler la question paradoxale.
On ne peut même plus l'écrire. Le problème disparaît.
C'est très malin. On ne résout pas le paradoxe, on l'empêche d'exister en changeant les règles du jeu.
C'est exactement ça.
Et si on applique ça à nos exemples plus simples, pour le barbier, ça voudrait dire que le barbier lui-même, en tant que celui qui édicte la règle, n'est pas du même type que ses clients.
Précisément.
La règle s'applique au client, qui serait de type 0, mais le barbier est à un autre niveau, type 1, et donc il n'est pas concerné par sa propre règle.
Vous avez parfaitement saisi l'idée. c'est la distinction entre le langage et le métalangage. Une règle, le langage, ne peut pas s'appliquer à son propre énonciateur qui est dans le métalangage.
Et pour le menteur, c'est pareil ?
C'est pareil. L'affirmation « je mens » essaie d'évaluer sa propre vérité de l'intérieur, ce qui est interdit par la théorie des types. Il faudrait un méta-énoncé d'un niveau supérieur pour juger de la vérité du premier.
Les sources utilisent des exemples modernes qui rendent ça très concret. Par exemple, un bot sur Twitter.
Oui, j'ai vu ça.
On le programme avec la règle « retweeter tous les comptes qui ne se retweetent pas eux-mêmes ». Si on lui demande s'il doit se retweeter, on est reparti dans le paradoxe.
C'est la même boucle. Et la solution de Russell, appliquée ici, est toute simple.
Il faut juste préciser la règle.
Il faut préciser la règle. On programme le bot pour qu'il retweete tous les autres comptes qui ne se retweetent pas. En créant cette distinction de type entre « moi » et les autres, la contradiction disparaît.
La règle redevient fonctionnelle. C'est fascinant de voir comment une solution aussi abstraite peut avoir des applications si pratiques. Mais au-delà de sauver la logique mathématique, quelles ont été les conséquences plus larges de toute cette affaire ?
Elles sont immenses. Elles touchent vraiment au cœur de la philosophie.
D'abord en maths, j'imagine.
Oui, d'abord en maths et en informatique. Ça a installé une prudence durable. On ne peut plus définir des choses de manière naïve. Toute la programmation moderne, avec ses types de variables, hérite indirectement de cette idée qu'il faut être rigoureux sur les catégories qu'on manipule.
Pour éviter les contradictions.
Voilà. Et en dehors de la technique pure,
oui.
En philosophie du langage, ça a solidifié cette idée de la hiérarchie entre langage et métalangage, qui sera explorée plus tard par des logiciens comme Alfred Tarski.
L'idée qu'on ne peut pas être juge et partie.
C'est ça. Pour parler rigoureusement de la vérité d'un système, il faut se placer à l'extérieur. Mais l'impact le plus profond, c'est peut-être en métaphysique, sur notre conception de la vérité elle-même.
Ah oui, comment ça ?
Le paradoxe de Russell a été un coup terrible porté à l'idée d'une vérité absolue, avec un grand V, un système unique, cohérent, qui pourrait tout expliquer. Si même un système logique, aussi fondamental que celui de Frege, peut s'effondrer sur lui-même, à cause d'une simple boucle, l'ambition de construire une théorie du tout, sans faille...
Ça devient très suspect.
Ça devient très suspect.
Mais alors, est-ce que ça nous pousse vers une sorte de relativisme où tout se vaut, où il n'y a plus de vérité ?
C'est une nuance très importante que les sources soulignent. Ça ne mène pas à un relativisme nihiliste.
Non.
Non. Ça mène à une position très forte contre le dogmatisme. L'idée, ce n'est pas qu'il n'y a pas de vérité. C'est que les vérités qu'on manipule sont toujours locales. Elles sont valides à l'intérieur d'un certain cadre, d'un certain langage.
D'un certain système de type.
Exactement. La vérité reste un concept essentiel, mais on doit admettre qu'elle est toujours relative à un référentiel. La source a une formule que je trouve très juste.
Qui est ?
Elle dit que, s'il est contradictoire de dire « il n'y a pas de vérité », on peut en revanche affirmer qu'il n'y a pas d'indiscutabilité. Aucune proposition n'est au-dessus d'un questionnement sur ses propres conditions de validité.
Et la solution de Russell, cette fameuse théorie des types, est-ce qu'elle est considérée aujourd'hui comme la réponse définitive ?
Pas forcément. Elle a été critiquée pour sa complexité, son caractère un peu artificiel.
D'accord.
D'autres approches ont été développées. Les sources mentionnent par exemple les logiques polyvalentes, qui s'écartent du principe binaire vrai ou faux.
Et dans ces logiques ?
Une proposition paradoxale pourrait avoir une troisième valeur, comme indéterminée ou inclassable. Le débat est donc loin d'être clos, ce qui montre bien à quel point ce problème est fondamental.
En somme, ce qui a commencé comme une petite fissure dans les fondations de la théorie des ensembles a provoqué un véritable séisme. Le paradoxe de Russell a forcé les penseurs à être plus humbles, à reconnaître que nos systèmes de pensée, aussi puissants soient-ils, ont des limites.
Des limites structurelles.
C'est l'histoire d'une idée magnifique, fondée toutes les mathématiques sur la logique, détruite par une seule petite contradiction. Élégante et fatale.
C'est un résumé parfait. Et ça ouvre une perspective assez vertigineuse pour notre époque.
C'est-à-dire ?
Russell nous a montré qu'une règle très simple, si elle se réfère à elle-même, peut créer une contradiction insoluble. Aujourd'hui, on ne construit plus de simples règles logiques. On construit des systèmes d'intelligence artificielle dont les règles sont d'une complexité inouïe.
Et souvent opaques.
Souvent opaques et qui apprennent, qui se modifient elles-mêmes. Alors la question qu'on peut se poser pour finir est la suivante. Quelles sont les boucles d'autoréférence qu'on est en train de coder sans même s'en rendre compte au cœur de ces algorithmes ? Et quel paradoxe imprévu, bien plus subtil que celui du barbier, pourrait un jour émerger de leur propre fonctionnement ?